Chapitre 16. Godric au lot. Lorsque Harry se réveilla le lendemain matin, il lui fallut plusieurs secondes pour se rappeler ce qui s'était passé. Il eut alors l'espoir puéril qu'il s'agissait d'un rêve, que Ron était toujours là, qu'il n'était jamais parti. Pourtant, en tournant la tête sur son oreiller, il vit son lit abandonné. Ses yeux semblaient attirés par cette couchette vide comme par un cadavre. Harry sauta à bas de son propre lit en évitant de regarder celui de Ron. Hermione, qui s'affairait déjà dans la cuisine, ne lui dit pas bonjour et détourna vivement la tête lorsqu'il passa à côté d'elle. « Il est parti, » songea Harry. « Il est parti. » Il dut se le répéter pendant qu'il se lavait et s'habillait comme si cela pouvait atténuer le choc. Il est parti et il ne reviendra pas. C'était la vérité, pure et simple. Harry ne pouvait l'ignorer, car une fois qu'ils auraient quitté cet endroit, leur sortilège de protection empêcherait Ron de les retrouver. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. Hermione avait les yeux rouges et bouffis. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Ils firent leurs bagages, mais Hermione traînait. Harry savait pourquoi elle tenait tant à s'attarder au bord de cette rivière. À plusieurs reprises, il la vit lever les yeux d'un air fébrile. Elle avait eu l'illusion d'entendre un bruit de pas sous la pluie battante, mais aucune tête aux cheveux roux n'apparaissait entre les arbres. Chaque fois que Harry l'imitait, qu'il jetait soudain un regard par-dessus son épaule, car il ne pouvait s'empêcher de conserver lui-même un petit espoir, et ne voyait que les arbres balayés par la pluie, une nouvelle parcelle de fureur explosait en lui. Il entendait encore Ron lui dire « On croyait que tu savais ce que tu faisais ?» Et il continuait à emballer ses affaires, l'estomac noué. La rivière boueuse à côté d'eux montait rapidement et bientôt ses eaux déborderaient. Ils avaient déjà dépassé d'une bonne heure le moment où ils quittaient habituellement leur campement. Enfin, après avoir vidé et rempli trois fois de suite le sac en perles, Hermione ne sembla plus trouver aucune raison de s'attarder davantage. Harry et elle se prirent alors par la main et transplanèrent, réapparaissant au flanc d'une colline couverte de bruyère et battue par le vent. À l'instant même où ils arrivèrent, Hermione lâcha la main de Harry et s'éloigna de lui. Elle finit par s'asseoir sur un gros rocher, le front sur les genoux, secouée de sanglots. Harry la regarda en pensant qu'il devrait aller la réconforter, mais quelque chose le clouait sur place. Tout en lui semblait froid et tendu. Il revit en pensée l'expression de mépris sur le visage de Ron. Harry se mit à marcher à grands pas dans la bruyère et décrivit un large cercle dont la malheureuse Hermione était le centre, prononçant lui-même les formules des sortilèges qu'elle se chargeait habituellement de jeter autour d'eux pour assurer leur protection. Dans les jours qui suivirent, ils ne parlèrent pas du tout de Ron. Harry était décidé à ne plus jamais prononcer son nom, et Hermione savait qu'il était inutile d'aborder le sujet. Parfois, cependant, il l'entendait pleurer la nuit, quand elle le croyait endormi. Entre-temps, Harry avait pris l'habitude de sortir la carte du maraudeur et de l'examiner à la lueur de sa baguette. Il attendait le moment où le point portant le nom de Ron ressurgirait dans les couloirs de Poudlard, prouvant qu'il était de retour dans le confortable château où il serait protégé par son statut de sang pur. Mais Ron n'apparaissait pas sur la carte, et au bout d'un certain temps, Harry ne la sortit plus que pour voir le nom de Ginny dans le dortoir des filles, en se demandant si l'intensité de son regard pouvait la visiter dans son sommeil, lui faire savoir d'une manière ou d'une autre qu'il pensait à elle, espérant qu'elle allait bien. Ils consacraient leur journée à tenter de déterminer où pouvait bien se trouver l'épée de Gryffondor. Mais plus ils évoquaient les endroits où Dumbledore aurait pu la cacher, plus leur spéculation devenait excessive, désespérée. Il avait beau se creuser la cervelle, Harry ne parvenait pas à se souvenir que Dumbledore ait jamais mentionné un lieu quelconque dans lequel il aurait eu l'idée de dissimuler quelque chose. Parfois, il ne savait pas si c'était contre Ron ou contre Dumbledore qu'il était le plus en colère. « On croyait que tu savais ce que tu faisais !» On croyait que Dumbledore t'avait expliqué comment t'y prendre. On croyait que tu avais un véritable plan. Il ne pouvait se le cacher. Ron avait raison. Dumbledore l'avait laissé pratiquement sans rien. Ils avaient découvert un Horcrux, mais ils ne disposaient d'aucun moyen de le détruire. Quant aux autres, ils étaient toujours aussi inaccessibles. Le désespoir menaçait de le submerger. Il était atterré à présent, en repensant à sa propre présomption, lorsqu'il avait accepté la proposition de ses amis de l'accompagner dans ce vagabondage dérisoire, incohérent. Il ne savait rien, n'avait aucune idée et restait constamment douloureusement à l'affût du moindre signe, indiquant qu'Hermione, elle aussi, s'apprêtait à lui annoncer qu'elle en avait assez et qu'elle s'en allait. Ils passaient la plupart de leur soirée dans un silence presque total, et Hermione avait maintenant pris l'habitude de sortir le portrait de Phineas Nigellus, qu'elle posait debout sur une chaise, comme s'il pouvait remplir en partie le vide laissé par le départ de Ron. En dépit de son affirmation qu'il ne reviendrait plus jamais les voir, Phineas Nigellus n'avait pas pu résister au désir d'en savoir plus sur ce que Harry préparait, et il consentait ainsi à réapparaître de temps à autre, son bandeau sur les yeux. Harry était même content de le voir, car il lui tenait compagnie, même s'il était du genre narquois et persifleur. Il se délectait des nouvelles en provenance de Poudlard, bien que Phineas Nigellus ne fût pas l'informateur idéal. Il vénérait Rogue, le premier directeur issu de Serpentard depuis que lui-même avait dirigé l'école, et il devait prendre garde à ne pas le critiquer ou à ne pas poser de questions impertinentes à son sujet, sinon Phineas quittait instantanément son tableau. Parfois, cependant, il laissait échapper quelques bribes d'informations. Rogue devait apparemment faire face à une mutinerie constante qui venait de la base et était menée par un noyau dur d'élèves. Ginny n'avait plus le droit d'aller après Préaulard. Rogue avait par ailleurs remis en vigueur l'ancien décret d'ombrage interdisant les rassemblements de plus de 3 élèves ainsi que toute association non officielle. De tout cela, Harry avait déduit que Ginny, et sans doute avec elle Neville et Luna, avaient fait de leur mieux pour perpétuer l'armée de Dumbledore. Ces maigres nouvelles lui donnaient une telle envie de voir Ginny qu'il en éprouvait comme un mal de ventre. Mais elle le faisait également penser à Ron et à Dumbledore et aussi à Poudlard qui lui manquait presque autant que son ex-petite amie. Tandis que Phineas Nigellus parlait des mesures disciplinaires imposées par le nouveau directeur, Harry eut même pendant une fraction de seconde une pensée folle, imaginant qu'il pourrait tout simplement retourner à Poudlard pour participer à la déstabilisation du régime de Rogue. Être nourri, avoir un lit douillet, avec des gens qui prenaient tout en charge, lui semblait en cet instant la plus merveilleuse perspective du monde. Mais il se rappela alors qu'il était l'indésirable numéro 1, que sa tête était mise à prix 10 000 galions, et qu'entrer à Poudlard ces temps-ci était à peu près aussi dangereux que de pénétrer dans le ministère de la magie. Par inadvertance, Phineas Nigellus souligna ce fait en glissant quelques questions pièges pour essayer d'en savoir plus sur l'endroit où Harry et Hermione se trouvaient. À chaque fois qu'il agissait ainsi, Hermione le remettait aussitôt dans son sac en perles et Phineas Nigellus refusait invariablement de réapparaître pendant plusieurs jours, vexé d'avoir été congédié avec une telle brusquerie. Il faisait de plus en plus froid. Harry et Hermione n'osaient pas rester trop longtemps dans la même région, et plutôt que de s'attarder dans le sud de l'Angleterre, où ils n'avaient pas de plus graves soucis que la dureté du sol gelé, ils continuèrent à vagabonder dans tout le pays, bravant la neige fondue qui martela leur tente au flanc d'une montagne, un vaste marécage qui les inonda d'eau glacée et une île minuscule au centre d'un loch écossais où ils furent à moitié ensevelis sous la neige au cours de la nuit. Déjà, ils avaient vu briller les premiers arbres de Noël aux fenêtres des maisons lorsque Harry résolut un soir de suggérer à nouveau ce qui lui semblait la seule piste encore inexplorée. Il venait de terminer un repas exceptionnellement savoureux. Hermione s'était rendue dans un supermarché sous la cape d'invisibilité. En partant, elle avait scrupuleusement jeté l'argent dans le tiroir ouvert d'une caisse enregistreuse. Et Harry pensa qu'elle serait peut-être plus influençable avec un ventre rempli de spaghettis bolognaise et de poires au sirop. Par précaution, il avait également proposé qu'ils cessent pendant quelques heures de porter leur crux et l'avait accroché au-dessus du lit, à côté de lui. « Hermione ?»«
Hmm ?»
Elle était pelotonnée dans l'un des fauteuils défoncés, plongée dans les contes de Biddle le Barde. Il avait du mal à imaginer ce qu'elle pourrait bien encore tirer de ce livre qui, après tout, n'était pas si long. Mais de toute évidence, elle avait à nouveau trouvé quelque chose à y déchiffrer, car le syllabaire « Lune rousse » était ouvert sur le bras du fauteuil. Harry s'éclaircit la gorge. Il ressentait exactement la même chose que le jour où, plusieurs années auparavant, il avait demandé au professeur McGonagall s'il pouvait aller à Pré-au-Lard, bien qu'il n'eût pas réussi à convaincre les Dursley de lui signer son autorisation de sortie. « Hermione, j'ai réfléchi et... Harry, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Apparemment, elle ne l'avait pas écouté. Elle se pencha en avant et lui tendit les contes de Biddle le Barde. « Regarde ce symbole, » dit-elle en montrant le haut d'une page. Au-dessus de ce qui semblait être le titre de l'histoire, étant incapable de lire les runes, il ne pouvait en être sûr. Il vit une image représentant une sorte d'œil triangulaire, la pupille barrée par un trait vertical. « Je n'ai jamais étudié les runes anciennes, Hermione. »«
Je sais, mais ce n'est pas une rune, et ce symbole ne figure pas dans le syllabaire. J'ai toujours pensé qu'il représentait un œil, mais finalement, je crois que ce n'est pas ça. Il a été tracé à l'encre. Regarde, quelqu'un l'a dessiné là. Ça ne fait pas partie du livre. Réfléchis, est-ce que tu l'as déjà vu quelque part ?»«
Non. »«
Non ? Ah, attends. »
Harry regarda plus attentivement.
« Ce ne serait pas le même signe que le père de Luna portait autour du cou ?»« C'est ce que je pensais. »«
Alors c'est la marque de Grindelwald. »
Elle le regarda bouche bée. « Quoi ?»«
Crum m'a dit. » Il lui répéta l'histoire que Victor Crum lui avait racontée au mariage et Hermione parut abasourdie.
« La marque de Grindelwald ?»
Elle regarda alternativement Harry et l'étrange symbole.
Je n'ai jamais entendu dire que Grindelwald avait une marque. On n'en parle nulle part dans tout ce que j'ai lu sur lui.
Comme je te l'ai dit, Crum affirme que ce symbole était gravé sur un mur à Durmstrang et pense que c'est Grindelwald qui l'avait mis là. Hermione se laissa retomber au fond du vieux fauteuil, les sourcils froncés.
C'est vraiment bizarre. S'il s'agit d'un symbole de magie noire, qu'est-ce qu'il fait dans un recueil de contes pour enfants ?
« Bizarre, en effet, » admit Harry. « Et on pourrait penser que Scrimgeour l'aurait reconnu. En tant que ministre, il aurait dû être expert en matière de magie noire. »«
Je sais. Peut-être a-t-il pensé comme moi que c'était tout simplement un œil. »« Toutes les autres histoires ont des petits dessins au-dessus du titre. »
Elle se tut et continua de contempler l'étrange marque.
Harry fit une nouvelle tentative. « Hermione. »
J'ai réfléchi, je veux aller à Godric's Hollow. »
Elle leva la tête, mais elle avait le regard vague et Harry était persuadé qu'elle pensait toujours au mystérieux symbole du livre. « Oui,
dit-elle.
« Oui, moi aussi, je me suis posé la question. Je pense vraiment qu'il faut y aller. »
Tu as bien entendu ce que je viens de dire ? » insista Harry.
« Bien sûr. Tu veux aller à Godric's Hollow, et je suis d'accord avec toi. De toute façon, je ne vois pas dans quel autre endroit elle pourrait se trouver. Ce sera dangereux, mais plus j'y pense, plus il me semble probable qu'elle soit là-bas. »«
Que quoi soit là-bas ? » s'étonna Harry.
Hermione parut aussi déconcertée que lui. « Voyons, Harry, l'épée ! Dumbledore devait savoir que tu voudrais y retourner, et en plus, Godric's Hollow est le lieu de naissance de Godric Gryffondor. »«
Vraiment ? Gryffondor était originaire de Godric's Hollow ?
Harry, t'est-il jamais arrivé d'ouvrir Histoire de la magie ?»«
dit-il. » Il eut l'impression qu'il souriait pour la première fois depuis des mois. Les muscles de son visage lui paraissaient étrangement raides. « J'ai dû y jeter un coup d'œil quand je l'ai acheté, ce jour-là, c'est tout. »«
On a donné son nom au village. Je pensais donc que tu aurais fait le rapprochement, répliqua Hermione. Elle semblait beaucoup plus proche à présent de sa véritable personnalité qu'elle ne l'avait été ces derniers temps. Harry s'attendait presque à l'entendre annoncer qu'elle allait tout de suite voir la bibliothèque. « Il y a un passage sur le village, dans l'histoire de la magie. Attends. » Elle ouvrit le sac en perles et y fouilla un certain temps. Enfin, elle sortit un exemplaire de leur vieux manuel scolaire intitulé « Histoire de la magie » par Bathilda Tour-de-Sac et le feuilleta pour trouver la page qu'elle cherchait. Après la signature du Code international du secret magique en 1689, les sorciers se cachèrent définitivement. Il était sans doute naturel qu'ils forment alors leur petite communauté au sein de la Grande. De nombreux villages et hameaux attirèrent ainsi des familles magiques qui s'associèrent pour assurer leur protection et s'apporter une aide mutuelle. Les villages de Tinworth en Cornouailles, Flagley-le-Haut dans le Yorkshire et Loutry-Saint-Chaspool sur la côte sud de l'Angleterre devinrent les lieux de résidence bien connus de familles de sorciers qui vivaient parmi des moldus tolérants et parfois soumis à des sortilèges de confusion. Le plus fameux de ces endroits, semi-magique, est sans doute Godric's Hollow, un village du sud-ouest de l'Angleterre, lieu de naissance du grand sorcier Godric Gryffondor et où Booman Wright, l'ensorceleur de métaux, forgea le premier vif d'or. Le cimetière est rempli de noms d'antiques familles de sorciers, et c'est sans doute là qu'il faut voir l'origine des histoires de fantômes attachées pendant des siècles à la petite église locale. « Tes parents et toi, vous n'êtes pas cités, » dit Hermione en refermant le livre, « parce que la période étudiée par le professeur Tour-de-Sac ne dépasse pas la fin du XIXe siècle. Mais tu vois, Godric's Hollow, Godric Gryffondor, l'épée de Gryffondor, hein? Tu ne crois pas que Dumbledore s'attendait à ce que tu fasses le rapport? Ah oui, 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 bien sûr. » Harry ne voulut pas avouer qu'il n'avait pas du tout pensé à l'épée lorsqu'il avait suggéré d'aller à Godric's Hollow. Ce qui l'attirait dans ce village, c'était la tombe de ses parents, la maison où il avait échappé de peu à la mort et la présence de Bathilda Tour-de-Sac. « Tu te souviens de ce que Muriel a dit ? » demanda-t-il enfin. « Qui ?»« Tu sais bien, » répondit-il, hésitant. Il ne voulait pas prononcer le nom de Ron. « La grand-tante de Ginny, au mariage, celle qui trouvait que tu avais les chevilles trop maigres. »« Ah oui !» se rappela Hermione. Ce fut un moment délicat. Harry savait que le nom de Ron flottait dans l'air. Il se hâta de poursuivre. « Elle a dit que Bathilda Tour-de-Sac habite toujours à Godric's Hollow. «
Bathilda Tour-de-Sac ? »
murmura Hermione en caressant de l'index le nom gravé sur la couverture d'Histoire de la magie.
« J'imagine... »
Elle eut soudain un haut-le-corps si violent que Harry sentit ses entrailles chavirer. Il tira sa baguette et se retourna vers l'entrée de la tente, s'attendant presque à voir une main se glisser à travers le rabat de la toile, mais il n'y avait rien. « Quoi ? » dit-il, moitié en colère, moitié soulagé. « Qu'est-ce qui t'a pris ? J'ai cru que t'avais vu un mange-mort. »«
Harry, et si c'était Bathilda qui avait l'épée ? Si Dumbledore la lui avait confiée ?»
Harry réfléchit à cette hypothèse. Bathilda devait être très âgée et, selon Muriel, complètement gaga. Était-il plausible que Dumbledore ait caché l'épée de Gryffondor chez elle ? Si c'était le cas, il s'en serait remis un peu trop à la chance. Jamais Dumbledore ne lui avait révélé avoir remplacé l'épée par une copie, et jamais il n'avait évoqué une quelconque amitié avec Bathilda. Mais le moment n'était pas venu de jeter le doute sur la théorie d'Hermione, alors qu'elle lui faisait l'excellente surprise d'approuver son vœu le plus cher.
« Oui, 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 c'est peut-être ce qui s'est passé. Alors, on part pour Godric's Hollow ?»«
Oui, oui, mais il faut qu'on se prépare très soigneusement, Harry. » Elle s'était redressée dans son fauteuil à présent, et Harry voyait que la perspective de mettre au point un nouveau plan lui remontait autant le moral qu'à lui-même.
« Pour commencer, nous devons nous entraîner à transplaner ensemble sous la cape d'invisibilité. Ensuite,
Des sortilèges de désillusion nous seraient peut-être utiles, à moins que tu ne veuilles jouer le grand jeu et recourir au polynectar. Dans ce cas, nous aurons besoin des cheveux de quelqu'un. En fait, je crois que ce serait la bonne solution. Harry, plus notre déguisement sera impénétrable, mieux cela vaudra. Harry la laissa parler, l'approuvant d'un mot ou d'un hochement de tête, chaque fois qu'elle faisait une pause. Mais son esprit était bien loin de la conversation. Pour la première fois depuis qu'il avait appris que l'épée de Gryffondor était un faux, il éprouvait à nouveau un sentiment d'exaltation. Il allait revenir chez lui, revenir à l'endroit où il avait eu une famille. S'il n'y avait pas eu Voldemort, c'était à Godric's Hollow qu'il aurait grandi et passé toutes ses vacances. Il aurait invité des amis dans sa maison. Peut-être aurait-il eu des frères et des sœurs. Le gâteau de son 17e anniversaire aurait été préparé par sa mère. La vie qu'il avait perdue ne lui avait jamais semblé aussi réelle qu'en cet instant où il savait qu'il allait revoir le lieu dans lequel on l'en avait privé. Ce soir-là, après qu'Hermione se fut couchée, Harry sortit silencieusement son sac à dos du sac en perles et y chercha l'album de photos que Hagrid lui avait offert il y avait déjà si longtemps. Pour la première fois depuis des mois, il contempla les vieilles images sur lesquelles ses parents lui souriaient et lui adressaient des signes de la main. C'était tout ce qui lui restait d'eux maintenant. Harry serait volontiers parti pour Godric's Hollow dès le lendemain, mais Hermione avait une autre idée. Convaincue que Voldemort s'attendait à ce que Harry revienne sur le lieu où ses parents étaient morts, elle avait résolu de s'y rendre sous le meilleur déguisement possible. Aussi n'accepta-t-elle d'entreprendre le voyage qu'une semaine plus tard, après qu'ils eurent subtilisé quelques cheveux à des moldus innocents pendant leurs achats de Noël et se furent entraînés à transplaner ensemble sous la cape d'invisibilité. Ils devaient transplaner dans le village sous le couvert de l'obscurité. Ce fut donc en fin d'après-midi qu'ils avalèrent le polynectar. Harry se transformant en un moldu d'âge mûr, au crâne dégarni, Hermione en sa petite épouse aux allures de souris. Le sac en perles qui contenait toutes leurs affaires, en dehors de leur crux que Harry portait autour du cou, avait été casé dans une poche du manteau d'Hermione, boutonné jusqu'au cou. Harry déploya sur eux la cape d'invisibilité, puis ils pivotèrent sur eux-mêmes, s'enfonçant à nouveau dans les ténèbres oppressantes. Le cœur lui remontant dans la gorge, Harry ouvrit les yeux. Il se tenait par la main dans une allée couverte de neige, sous un ciel d'un bleu sombre, dans lequel les premières étoiles du soir commençaient à scintiller faiblement. Des maisonnettes bordaient de chaque côté le chemin étroit, des décorations de Noël étincelant à leurs fenêtres. Un peu plus loin, des réverbères aux lueurs dorées indiquaient le centre du village. « Toute cette neige !» murmura Hermione sous la cape. « Pourquoi n'y avons-nous pas pensé ?» Après avoir pris toutes ces précautions, voilà que nous allons laisser des empreintes. Il va falloir les effacer. Mets-toi devant moi, je m'en charge.
Harry ne voulait pas que, pour essayer de rester invisible en faisant disparaître leurs traces par magie, il soit obligé d'entrer dans le village à la manière d'un cheval de pantomime.
« Enlevons la cape, » dit-il. Voyant son air effrayé, il ajouta. « Allez, quoi, on a changé d'aspect, il n'y a aucune personne autour de nous. »
Il glissa la cape sous sa veste, et ils poursuivirent leur chemin sans entrave, l'air glacé leur picotant le visage tandis qu'ils passaient devant d'autres maisonnettes. L'une d'elles était peut-être celle dans laquelle James et Lily avaient autrefois vécu, ou bien celle de Bathilda. Harry regardait leurs portes d'entrée, leurs toits chargés de neige, leurs perrons, en se demandant s'il pourrait se souvenir de quelque chose. Mais il savait au fond de lui que c'était impossible, qu'il avait tout juste un peu plus d'un an lorsqu'il avait quitté cet endroit pour toujours.
Il n'était même pas sûr qu'il lui serait possible de voir la maison. Il ignorait ce qui se passait quand les dépositaires d'un sortilège de Fidelitas mouraient. Le chemin sur lequel il marchait décrivit une courbe vers la gauche et le cœur du village leur apparut sous la forme d'une petite place.
Ornée tout autour de lumières colorées, elle comportait en son centre ce qui semblait être un monument aux morts, à moitié caché par un arbre de Noël penché sous la force du vent. Il y avait plusieurs boutiques, une poste, un pub et une petite église dont les vitraux brillaient comme des joyaux de l'autre côté de la place.
Ici, la neige était tassée. Elle était devenue dure et glissante, là où les passants l'avaient foulée toute la journée. Des villageois se croisaient devant eux, leurs silhouettes brièvement éclairées par la lumière des réverbères. Ils entendirent des éclats de rire et quelques échos d'un morceau de pop-musique lorsque la porte d'un pub s'ouvrit et se referma. Puis, un chant de Noël s'éleva à l'intérieur de la petite église.
« Harry, je crois que c'est la veille de Noël, » dit Hermione.
« Ah bon ?» Il avait perdu la notion des dates. Il n'avait pas vu un journal depuis des semaines.
« J'en suis sûr, » affirma Hermione, les yeux fixés sur l'église. « C'est là qu'ils sont, non ? Ton père et ta mère ? Je vois le cimetière derrière. »
Harry éprouva une sensation qui allait au-delà de l'excitation. Quelque chose qui se rapprochait davantage de la peur. À présent qu'il était si près, il se demandait si finalement il avait vraiment envie de voir. Peut-être Hermione savait-elle ce qu'il ressentait, car elle lui saisit la main et l'entraîna avec elle, prenant l'initiative pour la première fois. Mais lorsqu'ils furent arrivés au centre de la place, elle s'immobilisa soudain.
« Harry, regarde !»
Elle montrait du doigt le monument aux morts. Au moment où ils étaient passés devant, il s'était transformé. Au lieu d'un obélisque couvert de noms, il y avait maintenant une statue représentant trois personnes. Un homme, avec des lunettes et des cheveux en bataille, une belle femme à la longue chevelure aux traits bienveillants, et un bébé qu'elle portait dans les bras. De la neige s'était déposée sur leur tête, comme des casquettes blanches et duveteuses. Harry s'approcha, contemplant le visage de ses parents. Il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir une statue. Il trouvait tellement étrange de se voir représenté dans la pierre comme un bébé heureux sans cicatrice sur le front. « Viens, » dit-il, après avoir regardé la sculpture, tout son sou. Ils se retournèrent à nouveau vers l'église. En traversant la rue, il jeta un regard par-dessus son épaule. La statue était redevenue un monument aux morts. Le chant de Noël s'amplifia à mesure qu'ils approchaient de l'église. Harry en avait la gorge serrée. Il ramenait en force dans sa mémoire les souvenirs de Poudlard, Peeves qui vociférait des versions grossières de cantiques traditionnels en se cachant dans des armures, les 12 sapins de Noël de la grande salle, Dumbledore coiffé d'un chapeau trouvé dans un pétard surprise, Ron vêtu d'un pull tricoté à la main. Il y avait une porte étroite à l'entrée du cimetière. Hermione la poussa aussi silencieusement que possible, et ils se faufilèrent par l'ouverture. De chaque côté du chemin glissant qui menait aux portes de l'église, l'épaisse couche de neige était restée vierge. Ils s'avancèrent sur cette surface immaculée, creusant de profondes ornières dans leur sillage, tandis qu'ils contournaient l'édifice, attentifs à demeurer dans l'ombre sous les vitraux illuminés. Derrière l'église, des rangées de tombes enneigées se dressaient sur l'étendue bleu pâle du sol, parsemées d'éclats rouges, verts et or, là où les vitraux projetaient leurs reflets. La main serrée sur sa baguette, dans la poche de sa veste, Harry se dirigea vers la tombe la plus proche. «
Regarde, quelqu'un qui s'appelle Abbott. C'est peut-être un parent éloigné d'Anna. Parle plus bas !»
le supplia Hermione. Ils s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans le cimetière, leurs pas laissant derrière eux des traces sombres dans la neige. Ils se penchaient pour regarder les inscriptions des pierres tombales, scrutant de temps à autre l'obscurité pour s'assurer qu'ils étaient seuls.
« Harry, là !»
Deux rangées de tombes le séparaient d'Hermione. Il dut revenir sur ses pas en pataugeant dans la neige, son cœur lui martelant littéralement les côtes.
« C'est... Non, mais regarde !»
Elle montra une pierre sombre. Harry se pencha et vit sur le granit gelé, constellé de lichens, le nom de Kendra Dumbledore. Un peu au-dessous de ses dates de naissance et de mort, il était écrit « Et sa fille, Ariana ». Il y avait aussi une citation. « Là où est ton trésor sera aussi ton cœur ». Ainsi donc, Rita Skeeter et la tante Muriel avaient raison sur certains points. Les Dumbledore avaient bel et bien vécu ici
et une partie de la famille y était morte. Voir la tombe était pire que d'en entendre parler. Harry ne pouvait s'empêcher de penser que Dumbledore aurait dû lui dire qu'ils avaient tous deux des racines profondes dans ce cimetière. Pourtant, ils n'avaient jamais pensé à évoquer ce point commun. Ils auraient pu visiter ce cimetière ensemble. Pendant un instant, Harry s'imagina venant ici avec Dumbledore. Il imagina le lien qui se serait alors établi entre eux et tout ce qu'il aurait signifié pour lui. Mais il semblait qu'aux yeux de Dumbledore, le fait que leur famille repose côte à côte dans le même cimetière n'était qu'une coïncidence sans importance, sans rapport peut-être avec la tâche qu'il voulait voir Harry accomplir. Hermione le regardait, et il était content que son visage soit caché dans l'ombre. Il lut à nouveau l'inscription sur la pierre tombale « Là où est ton trésor, sera aussi ton cœur ». Il ne comprenait pas ce que signifiaient ces mots. C'était sûrement Dumbledore qui les avait choisis en tant qu'aîné de la famille, après la mort de sa mère.
« Tu es sûr qu'il n'a jamais parlé ?»
commença Hermione. « Non, » coupa sèchement Harry. « Continuons à chercher, » ajouta-t-il. Et il tourna les talons en regrettant d'avoir vu cette tombe. Il ne voulait pas que l'exaltation fébrile qu'il éprouvait se teinte de ressentiment.
« Ici !»
s'écria à nouveau Hermione dans l'obscurité.
« Oh non, désolé, je croyais qu'il était écrit Potter. »
Elle était en train de frotter une pierre moussue et délabrée qu'elle contemplait avec un petit froncement de sourcils.
« Harry, viens voir !»
Il ne voulait pas se détourner une nouvelle fois de son chemin, et ce fut à contre-cœur qu'il revint vers elle en s'enfonçant dans la neige.
« Quoi ? Regarde ça !»
La tombe était très vieille, patinée par les intempéries, et Harry parvenait difficilement à déchiffrer le nom qu'elle portait. Hermione lui montra un symbole gravé au-dessous.
« Harry, c'est la marque du livre !»
Il observa attentivement l'endroit qu'elle lui indiquait.
La pierre était si usée qu'on avait du mal à distinguer l'inscription, mais il semblait bien y avoir une marque triangulaire sous le nom devenu presque illisible.
« Ouais, c'est possible. » Hermione alluma sa baguette et la pointa sur la pierre tombale.
« Il est écrit Ignotus, je crois. »«
Je vais continuer de chercher mes parents, d'accord ?» répliqua Harry d'un ton un peu agacé. Il se remit en chemin, la laissant accroupie auprès de la vieille tombe. De temps à autre, il reconnaissait un nom, tel Abbott, également porté par quelqu'un qu'il avait connu à Poudlard. Parfois, plusieurs générations de la même famille de sorciers étaient représentées dans le cimetière. D'après les dates, Harry voyait que la lignée s'était éteinte ou que ses actuels descendants avaient quitté Godric's Hollow. Il s'avança de plus en plus parmi les tombes. Chaque fois qu'il passait devant une nouvelle pierre, il sentait un petit tressaillement d'impatience mêlé d'appréhension. L'obscurité et le silence semblèrent soudain plus épais. Inquiet, Harry regarda autour de lui, pensant à des détraqueurs. Il s'aperçut alors que les cantiques avaient cessé, que les conversations et les bruits de pas des fidèles s'évanouissaient à mesure qu'il retournait sur la place. À l'intérieur de l'église, quelqu'un venait d'éteindre les lumières. Pour la troisième fois, la voix d'Hermione s'éleva dans la nuit, claire et nette, à quelques mètres de distance.
« Harry, ils sont là, ils sont ici !»
Il sut au ton de sa voix que cette fois, c'était bien son père et sa mère. Il marcha vers elle en sentant un poids peser sur sa poitrine. C'était la première sensation qu'il avait éprouvée juste après la mort de Dumbledore. Un chagrin qui lui écrasait le cœur, lui oppressait les poumons. La tombe était située à deux rangées de distance derrière celle de Kendra et d'Ariana. Elle était en marbre blanc, comme celle de Dumbledore, ce qui rendait l'inscription qu'elle portait facilement lisible. Elle semblait briller dans le noir. Harry n'eut pas besoin de s'agenouiller, ni même de s'approcher très près pour distinguer ce qui était gravé dans la pierre. James Potter, né le 27 mars 1960, mort le 31 octobre 1981. Lily Potter, née le 30 janvier 1960,
morte le 31 octobre 1981. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Harry lut lentement ces mots, comme si c'était sa seule et unique chance d'en comprendre le sens, et prononça la citation à haute voix. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Une horrible pensée lui vint alors en tête, accompagnée d'une sorte de panique. Ce ne serait pas une idée de mange-mort ? Pourquoi cette phrase est-elle écrite ici ?
Ça ne veut pas dire vaincre la mort à la manière des mange-morts, Harry,
répondit Hermione d'une voix douce.
Ça signifie, enfin tu comprends, vivre au-delà de la mort, vivre après la mort.
Mais ils ne vivaient plus, pensa Harry. Ils étaient partis à jamais. Les mots vides ne pouvaient masquer le fait que les restes décomposés de ses parents reposaient sous la neige et la pierre, indifférents, inconscients. Les larmes vinrent avant qu'il ait pu songer à les arrêter. Elles coulaient, brûlantes, puis gelaient sur son visage. Et d'ailleurs, à quoi bon les essuyer ? À quoi bon faire semblant ? Il les laissait ruisseler, les lèvres étroitement serrées, et regarda la neige épaisse qui cachait à ses yeux la tombe où gisaient les dépouilles de Lily et de James. Simples ossements à présent, peut-être même poussière, étrangers à la présence si proche de leur fils survivant, dont le cœur continuait de battre grâce à leur sacrifice. En cet instant, cependant, il aurait presque souhaité dormir avec eux sous la neige. Hermione avait à nouveau pris sa main et la serrait étroitement. Il ne pouvait la regarder, mais il lui rendit son étreinte, respirant profondément, à grande bouffée, l'air de la nuit, essayant de se reprendre, de retrouver le contrôle de lui-même. Il aurait dû leur apporter quelque chose, mais il n'y avait pas pensé, et toutes les plantes du cimetière étaient gelées, sans feuilles. Hermione leva alors sa baguette, décrivit un cercle dans les airs, et ils virent éclore devant eux une couronne de roses de Noël. Harry l'attrapa et la déposa sur la tombe de ses parents. Dès qu'il se fut relevé, il voulut s'en aller. Il n'aurait pas supporté de rester ici un instant de plus. Il passa un bras autour des épaules d'Hermione qui le prit par la taille. Tous deux se tournèrent en silence et s'éloignèrent à travers la neige, passant devant la mère et la sœur de Dumbledore, puis revenant vers l'église assombrie et la porte étroite, pour l'instant hors de vue.